Ottawa, Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir Le Monde aujourd'hui. Bienvenue dans cette édition du lundi 5 septembre 2022. Avec vous, Eric Manelakidza. Voici d'abord le sommaire. Au Kenya, la Cour suprême confirme l'élection de William Ruto à la présidence. Son rival Raila Odinga respecte le verdict. Le président de la transition au Burkina Faso, le lieutenant-colonel de Paul Henri Sandaogo Damiba, en déplacement à Abidjan, assure que les engagements seront respectés concernant la durée de la transition. États-Unis, une juge ordonne un examen par un superviseur indépendant des documents saisis chez Trump. Les conservateurs britanniques ont élu Liz Truss pour devenir Premier ministre et succéder à Boris Johnson. Dans 10 minutes, vous suivrez également l'économie et les sports, mais d'abord le journal. La Cour suprême du Kenya a confirmé lundi l'élection de William Ruto à la présidence. Elle a rejeté les recours déposés par Raila Odinga, figure historique de la politique kenyane qui avait dénoncé des fraudes. Le point avec Rosine Monezer.
La plus haute juridiction du pays a confirmé les résultats annoncés le 15 août par la commission électorale indépendante qui avait déclaré le vice-président sortant William Ruto vainqueur d'un des scrutins les plus serrés de l'histoire du Kenya avec 50,49% contre 48,85% pour Raila Odinga. Ce dernier avait reçu le soutien du président sortant Uhuru Kenyatta et de son parti Jubilee. Monsieur Odinga avait crié à la fraude et saisi la Cour suprême, affirmant avoir suffisamment de preuves de sa victoire. Mais selon Martha Koome, la présidente de la Cour suprême, les irrégularités signalées n'étaient pas d'une ampleur suffisante pour affecter les résultats définitifs de l'élection présidentielle. Le jugement entérine la cinquième défaite de Raila Odinga comme candidat à la présidentielle. William Ruto, 55 ans, devient lui le cinquième président depuis l'indépendance du pays en 1963. En vertu de la Constitution, il devrait prêter serment le 13 septembre.
Pour sa part, son rival Raila Odinga dit désapprouver mais respecter la décision de la Cour suprême qui a confirmé les résultats annoncés le 15 août par la commission électorale qui déclare M. Ruto vainqueur avec 50,49% des voix. Des affrontements sporadiques entre manifestants et forces de sécurité guinéennes ont éclaté lundi dans la banlieue de Conakry, partiellement paralysé un an après le coup d'État qui a porté les militaires au pouvoir. Le Front National pour la Défense de la Constitution, FNDC, coalition de partis, syndicats et organisations de la société civile, a appelé à manifester lundi pour réclamer un retour plus rapide à l'ordre constitutionnel et dénoncer une confiscation du pouvoir, la répression de la contestation et une instrumentalisation de la justice. La junte a promis de remettre le pouvoir à des civils élus dans un délai de 3 ans. Le président de la transition au Burkina Faso assure que les engagements pris par son pays concernant la durée de la transition seraient respectés. Le lieutenant-colonel Paul Henri Damiba s'exprimait à Abidjan où il a rencontré son homologue ivoirien Alassane Ouattara pour une visite d'amitié et de travail de 24 heures. Le point avec Yacouba Ouédraogo.
Le lieutenant-colonel Paul Henri Damiba a affirmé que la junte organisera des élections pour le retour à l'ordre constitutionnel normal à l'issue de la transition. La CEDEAO et les autorités burkinabées sont tombés d'accord début juillet sur une transition de 24 mois. Des milliers de réfugiés burkinabés ont fui ces dernières années les attaques djihadistes qui touchent leur pays pour trouver refuge dans le nord de la Côte d'Ivoire. Assurant du plein soutien de son pays pour les efforts de la junte face aux défis sécuritaires, le président Alassane Ouattara a rappelé que les attaques terroristes concernent toute la sous-région. Selon lui, il faut continuer d'échanger les renseignements et avoir une coopération au niveau des forces de sécurité. Il s'agit de la deuxième visite à l'étranger du président Damiba depuis son accession au pouvoir en janvier 2022. Samedi, il s'est rendu au Mali pour rencontrer son homologue Assimi Goïta. Sur son rôle dans une éventuelle médiation pour faire libérer des soldats ivoiriens détenus au Mali, depuis début juillet, M. Damiba dit souhaiter faire en sorte qu'une solution soit trouvée entre les autorités maliennes et ivoirienne.
L'Algérie a appelé lundi, en recevant l'émissaire de l'ONU pour le Sahara occidental, à des négociations directes entre le Maroc et les indépendantistes du Polisario pour parvenir à un règlement du conflit. Le chef de la diplomatie algérienne a réitéré la position de son pays et rejeté la formule dite de table ronde organisée à Genève en 2019 suivant une résolution de l'ONU et censée réunir le Maroc, le Polisario, l'Algérie et la Mauritanie. Les fortes pluies qui s'abattent sur le Niger depuis juin ont fait 103 morts et plus de 140 000 sinistrés, ont indiqué lundi les autorités. Les pluies ont aussi détruit ou endommagé plus de 16 000 habitations et provoqué l'effondrement de classes, de centres de soins médicaux, de greniers à céréales et des boutiques. Ces pluies ont favorisé l'apparition d'insectes ravageurs de cultures, a alerté le ministère nigérien de l'Agriculture. Les services météorologiques annonce de nouvelles précipitations jusqu'à la fin septembre. La Somalie est au bord de la famine, a alerté lundi le chef de l'agence humanitaire de l'ONU dans un ultime avertissement avant une catastrophe dans ce pays en proie à une sécheresse historique. Il a souligné que les dernières données montrent des indications concrètes qu'une famine va se produire entre octobre et décembre de cette année dans deux districts du sud du pays. Plus de 1100 migrants ont traversé illégalement la Manche dimanche pour rejoindre les côtes anglaises à bord de petites embarcations, annoncé à Londres lundi au moment où la justice se penche sur le projet britannique d'expulsion de demandeurs d'asile vers le Rwanda. Ces traversées se sont multipliées depuis 2018 face au verrouillage croissant du port français de Calais et du tunnel sous la Manche.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Un expert indépendant devra être nommé pour passer en revue les documents saisis début août par le FBI au domicile en Floride de Donald Trump, a ordonné lundi une juge aux États-Unis selon un document judiciaire rendu public. Cette décision interdit temporairement aux enquêteurs d'examiner les documents saisis dont le ministère de la Justice soupçonne certains d'être classés top secret. Les enquêteurs peuvent en revanche continuer de passer en revue les documents à des fins de classification et d'évaluation de sécurité nationale selon le jugement de la magistrate fédérale. Aujourd'hui, c'est Labor Day, la fête du travail ici aux États-Unis, une occasion marquée par des défilés et d'autres manifestations. Blanche Salon.
Le président Joe Biden passera la fête dans les États du Wisconsin et de la Pennsylvanie. Selon la Maison Blanche, il soulignera dans son discours la dignité des travailleurs américains. Dimanche, le chef de l'exécutif américain a exprimé son soutien à une nouvelle mesure californienne qui étendra les moyens de voter lors des élections syndicales. Le gouvernement doit ôter et non ériger des barrières à l'organisation des travailleurs, mais en fin de compte, les travailleurs devront décider s'ils veulent former un syndicat ou pas, a déclaré Joe Biden. L'Assemblée de l'État de Californie a adopté une loi permettant aux travailleurs de voter par voie postale lors des élections syndicales. Toutefois, le gouverneur californien Gavin Newsom s'y oppose, estimant que cette loi, dans sa forme actuelle, manque des dispositions nécessaires pour assurer l'intégrité du scrutin. Le Labor Day marque la fin officieuse de l'été et la reprise des classes aux États-Unis. Des millions d'Américains profitent du long week-end pour voyager, provoquant des embouteillages sur les autoroutes, dans les aéroports et les gares.
En Grande-Bretagne, c'est la très libérale Liz Truss, jusque-là ministre des Affaires étrangères, qui va succéder à Boris Johnson au poste de Premier ministre. Son défi immédiat, la crise au pouvoir d'achat. Le point avec Abdourahmane Dia.
Âgée de 47 ans, Liz Truss, qui a mené une campagne très à droite axée sur les baisses d'impôts, deviendra mardi la troisième femme à diriger le gouvernement britannique après Margaret Thatcher et Theresa May. Sans surprise, la chef de la diplomatie britannique s'est imposée face à son ancien collègue des finances Rishi Sunak à l'issue d'un vote réservé aux adhérents du Parti conservateur suite à la démission début juillet de Boris Johnson, acculé par les scandales à répétition. Liz Truss a recueilli 57% des voix contre 43% pour son adversaire. Resté fidèle jusqu'au bout à Boris Johnson, Liz Truss va entrer à Downing Street, siège de la primature, dans un contexte économique et social explosif marqué par une inflation qui dépasse les 10%, une hausse exorbitante des factures d'énergie prévues à l'automne et des grèves qui s'étendent. Elle dispose de peu de temps pour convaincre à où l'opposition travailliste, qui dispose d'une nette avance dans les sondages, espère déloger les conservateurs au pouvoir depuis 2010. Le chef du Labour, Keir Starmer, a accueilli le résultat en soulignant que Liz Truss n'est pas du côté des travailleurs.
Vous suivez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. Dans votre actualité économique en Afrique et ailleurs, suivez la Minute Éco qui vous est présentée ce soir par Mohamedou Oumfa.
Plusieurs dirigeants africains ont dénoncé lundi l'absence des chefs d'État des pays industrialisés à un sommet à Rotterdam en soutien de l'adaptation de l'Afrique au changement climatique. Puisque ce sont les principaux pollueurs de cette planète, ce sont eux qui doivent financer l'adaptation, a déclaré Macky Sall, président en exercice de l'Union africaine et président du Sénégal lors de l'ouverture du sommet. Abondant dans le même sens, l'ancien secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a dit qu'il est temps d'investir pour l'adaptation en Afrique. Le taux annuel d'inflation en Tunisie a atteint 8,6% en août contre 8,2% le mois précédent, a annoncé l'Institut national de la statistique. La Banque centrale tunisienne a fait passer son taux directeur de 6,5% à 7% dans une tentative de contenir l'inflation. En Algérie, la production de pétrole brut sera d'1,057,000 barils par jour en octobre, soit la même production qu'en septembre, a fait savoir le ministère algérien de l'énergie lundi. Cette annonce fait suite à la décision des pays membres de l'OPEP, l'organisation des pays exportateurs de pétrole, de réduire leur offre de brut de 100,000 barils par jour en octobre, soit 0,1% de la demande globale. Les États-Unis avaient demandé une augmentation de la production mondiale de brut pour réduire les coûts de l'énergie et leur impact sur l'inflation.
Et sans transition, nous passons à votre page des sports avec Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Eric, bonsoir à tous.
Tous les qualifiés pour le CHAN de 2023 sont connus.
Oui, une compétition réservée, faut-il le rappeler, aux joueurs évoluant sur le continent. Au centre, le Congo se qualifie aux dépens de la Centrafrique, tout comme la République démocratique du Congo qui a dominé le Tchad 2-1 et 5-0, puis le Cameroun renverse la Guinée équatoriale 2-0. À l'ouest, le Sénégal sera aussi en Algérie, après avoir réussi à éliminer enfin sa bête noire, la Guinée, au tir au but, d'où la satisfaction de son entraîneur, Papa Thiaw.
Très, très, très fier. La Guinée nous a empêché trois fois d'aller à ce CHAN. Mais cette fois-ci, c'est nous qui partons. On mérite parce que les joueurs nous l'ont montré. À chaque fois, on nous dit, les Sénégalais, parfois, mentalement, ça reste, ils savent jouer au football. Aujourd'hui, je pense qu'on a montré cette réputation de bien jouer au football. Et aussi, mentalement, quand même, si tu prends une lutte dès les premières minutes comme ça, face à une équipe qui faisait toujours des remontadas contre nous, les gamins, ils ont dû soutenir, garder ce score et dans le contenu du match, très bien en place et meilleur dans le jeu.
Parmi les autres qualifiés de cette zone, le Mali qui a confirmé son premier succès en battant de nouveau la Sierra Leone 2-0. Pareil pour la Mauritanie qui a aussi battu deux fois la Guinée-Bissau et le Niger vainqueur à Cotonou du Togo 3-1 après avoir perdu 1-0 à l'aller. Qualification également du Ghana au tir au but face au Nigeria et de la Côte d'Ivoire toujours au tir au but 5-3 face au Burkina Faso. On note aussi la qualification du Soudan, de l'Éthiopie et de l'Ouganda. Madagascar y sera pour la première fois après avoir écarté le Botswana. Ça passe aussi pour le Mozambique suite à son nul 0-0 devant le Malawi. Pareil pour l'Angola, deux fois vainqueur de l'Afrique du Sud. Le tirage au sort de la composition des groupes est prévu pour le 1er octobre. Ce 7e championnat d'Afrique des Nations aura lieu en Algérie du 8 au 31 janvier 2023.
Cyclisme avec le retour de la Côte d'Ivoire.
Le Burkinabé Paul Doumont est en jaune après la première étape courue aujourd'hui entre Korogo et Ferkessédougou. 125,8 km, le jeune cycliste burkinabé devance au sprint l'Ivoirien Abou Sanogo, deuxième, et le Français Noël-Roger Georges Richer. L'arrivée finale de cette 28e édition du Tour de Côte d'Ivoire est prévue le 12 septembre.
tennis, Hans Jaber qualifié pour les quarts de finale de l'US Open.
La Tunisienne, cinquième mondiale et finaliste du dernier Wimbledon, a écarté la Russe Veronika Kudermetova en huitième de finale 7-6-6-4. Hans Jaber atteint ainsi pour la première fois ce stade du majeur new-yorkais. Jusque-là, Jaber n'avait jamais dépassé le troisième tour à Flushing Meadows. En quart de finale, la joueuse de 28 ans affrontera pour une place dans le dernier carré l'Australienne Adjla Tomjanovic, tombeuse de Serena Williams au troisième tour. Pour le public, je vais jouer contre Adjla, qui a battu Serena à lancer Jaber en espérant s'attirer ainsi les faveurs des spectateurs pour son prochain tour.
Et c'est tout pour les sports. Merci. Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Eric Mandela-Kidza de retour avec vous. Place au dossier du jour. Il y a un an, jour pour jour, le 5 septembre 2021, le colonel Mamadi Doumbouya a renversé Alpha Condé du pouvoir par coup d'État en Guinée. Il prit alors les rênes du pays pour une transition d'une durée controversée de 3 ans. La junte avait promis de réconcilier les Guinéens autour de l'essentiel, amorcer un véritable développement du pays. Un an après, les tensions sont vives entre les militaires d'un côté et la classe politique et la société civile de l'autre. Entre les soutiens et les déçus de la transition, les avis sont mitigés sur la politique de la junte. Yacouba Ouédraogo a joint à Conakry le professeur Kabiné Fofana, politologue et analyste politique.
Il y a aujourd'hui une espèce de méconfiance qui s'installe, assez perceptible d'un point de vue du consensus politique profond qu'il y a entre le CNRD et la classe politique et les acteurs sociaux les plus importants. Et ceci est aussi la cause de la désignation d'un médiateur de la crise en Guinée.
Mamadi Doumbouya avait fait la promesse de réunir toutes les forces vives du pays. Qu'est-ce qu'on constate sur le terrain aujourd'hui?
Depuis les premières consultations qui ont été organisées donc dans la foulée de la prise du pouvoir par le CNRD, on a comme l'impression que le CNRD avait donc du mal à faire avec les acteurs politiques et sociaux les plus importants. Donc à la fois vous avez un manque de compromis autour de la durée de la transition, mais d'une manière globale même sur le projet politique de la transition.
Le CNRD avait interdit les manifestations, le Front National de la Défense de la Constitution, FNDC, donne de la voix et dit prévoir marcher. Finalement, à quoi ressemble la Guinée aujourd'hui, un an après le coup d'État?
On est exactement dans un schéma qui fut celui de 2008 sous le CNDD de Dadis Camara, qui avait donc du mal à faire avec les acteurs politiques qui étaient engagés à donc prouver qu'il y avait une frange importante de la population qui n'était pas d'accord avec ce schéma-là. Vous avez donc aujourd'hui une espèce de crise qui ne dit pas son nom et qui prend de l'ampleur au fur et à mesure. Vous avez le FNDC qui au départ avait quand même apporté son soutien au Butch et parmi eux, la plupart de ces acteurs sont en prison. Il y a l'interdiction de ces activités, des acteurs politiques qui pour la plupart ne partagent pas donc cette façon de faire du CNRD.
Est-ce qu'il y a des avancées positives quand même qu'on pourrait noter?
Il faut saluer depuis le 5 septembre cette volonté politique du CNRD de réprimer la délinquance financière et économique à travers donc la matérialisation de la CRIEF, la Cour de répression des infractions économiques et financières, qui, même si elle a du mal à se tirer d'affaires, ça reste une volonté politique importante. Et le fait aussi que après 10 ans, qu'il y ait une volonté politique réelle de la part donc du CNRD de faire aboutir le procès du 28 septembre 2009, ceci est fondamental.
Qu'est-ce qu'il faudrait rectifier en ce moment pour une bonne marche de cette transition-là jusqu'à terme?
Il y a 3 défis. C'est l'ouverture, c'est le compromis, c'est le dialogue. C'est extrêmement important, encore plus important sous une transition où les lois, les résolutions, c'est plus le consensus. Qui parle de consensus parle de compromis, parle d'ouverture, parle donc de dialogue in fine. Et je crois qu'il faudra aller dans ce sens. Attendant par exemple la durée de la transition, il faut se retrouver, il faut le changer. Peu importe le format, il faut une volonté de discuter aussi bien avec les acteurs sociaux que les acteurs politiques, mais aussi avec la communauté internationale.
Le professeur au cabinet Fofana, politologue et analyste politique, joint à Conakry.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président burkinabé de la transition, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, a dressé son bilan après 7 mois à la tête du Faso. Il a notamment évoqué une certaine accalmie dans plusieurs régions. Khalifa Séré est administrateur civil et spécialiste des questions de sécurité. Il revient d'abord sur cette question d'accalmie évoquée par le chef de la junte. Il est au téléphone de Bagassikoura.
Le chef de l'État, ils disent que c'est parce qu'eux, ils ont fait beaucoup de frappes, ils ont exercé des pressions, et quand les groupes sont dispersés, ils sont partout et font des attaques de. Comment ils les appellent? De pressés. Pour ouais. Faire valoir, pour faire quoi? Mais ce discours, on l'a déjà entendu plusieurs fois sur le président Kaboré. Parce qu'on nous dit, ah oui, ils sont affaiblis, ils sont quoi? Et puis après, on voit qu'ils ont la capacité de faire des. Encore beaucoup mal et très très mal. Et ça, bon, ça fait que tout le monde reste.
Pour vous, ce bilan ne correspond pas à la réalité sur le terrain.
Bon, il n'a pas pris le risque d'aller dans les détails. Il n'a pas, donc, il a un peu enlobé tout ça, mais il a tout fait. Bon, ça aussi, je crois que c'est une stratégie de communication militaire. Il ne pouvait pas mettre l'accent sur les affaires sombres. Il a dit oui, on est en train de nous équiper mieux, de façon plus précise, le renseignement est beaucoup plus flexible, un certain nombre de choses, pour lui, bon, c'est bien. Évidemment, ceux qui nous écoutent, qui sont nos ennemis aussi, pourraient peut-être se dire, bon, ah, peut-être qu'ils sont en train de les gagner en puissance, etc. En tout cas, il a dit clairement que nous sommes une puissance de feu supérieure qu'il y a 8 mois. Bon, on veut bien le croire, on attend que ça se mette en place. Moi, je suis issu d'une région où, présentement, on a pratiquement une infrastructure administrative ou une infrastructure de télécommunication, etc., attaquée pratiquement par jour. Ça pose problème. Ça questionne. Alors, moi, à toute façon, je pense qu'il nous faut de vraies offensives. Au moins une vraie offensive. Je n'entends pas offensive. Une offensive, une action concertée, cohérente, qui commence à un endroit donné, et qui avance méthodiquement, et qui élimine progressivement, de sorte que derrière, l'offensive laisse la place à une renaissance.
Ce week-end, il était à Bamako, et ce lundi, il est à Abidjan, sur Ouattara. Est-ce que la solution pourrait venir de ce côté-là, une coopération plus renforcée entre les armées de ces pays voisins?
Oui, assurément, la coopération stratégique militaire est inévitable. Si on traîne, on va perdre du temps, mais on vient sur là. Mais il faut quelque chose de plus concerté, de plus intime à nos États. Contrairement, on ne veut pas quelque chose d'exogène ou d'extraversé comme le G5 Sahel. Vous savez très bien que là, ce n'était pas nous, notre élément de géopolitique, mais plutôt la France qui avait un peu dirigé ce genre de mécanisme-là. Et ça ne m'a jamais bien su, parce que ça n'est pas intime à nous-mêmes, ça ne fait pas partie de notre existence. Par contre, là, si nous arrivons, notamment avec le Mali, à nouer véritablement une autonomie, construire une autonomie stratégique binaire, je crois que les résultats vont être immédiatement perceptibles.
Khalifa Séré, administrateur civil et spécialiste des questions de sécurité, joint à Ouagadougou par Bagassikoura.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou, sur le 102.4 FM.
Au Cameroun, les élèves ont repris le chemin de l'école le 5 septembre. 3 mouvements d'enseignants des cycles secondaires et primaires, parmi lesquels le mouvement « On a trop supporté », ont saisi cette occasion pour lancer une opération dite « Crée morte ». Ces enseignants revendiquent une meilleure gestion de leur carrière et des arriérés de solde. À Yaoundé, plus de précisions avec notre correspondant Emmanuel Jultap.
Comme depuis le lancement du mouvement « On a trop supporté », les enseignants grévistes n'ont pas fait de sitting dans les établissements scolaires. Ils ont choisi, à l'instar de Derrick Ndjomo, de ne pas dispenser les coups pour respecter l'opération clé morte.
J'attendais ce nombre d'avancements, 3 avancements et le rappel de 7 avancements. Jusqu'ici, le gouvernement n'a répondu qu'à 2 éléments, c'est-à-dire le paiement de 2 avancements. Donc, le chef de l'État ayant instruit le paiement total de 181 milliards, les rappels devaient être inclus. Donc, jusqu'aujourd'hui, nous sommes à l'attente des rappels de ces avancements et la prise en sorte des autres avancements, ainsi que les allocations familiales.
Bill Tsagi est l'un des membres du bureau directeur du mouvement On a trop supporté. Enseignant de mathématiques, il dénonce le sort de certains enseignants à l'issue de leur formation.
Il y a encore certains enseignants qui restent du moins dans le désarroi. Ils sont au nombre de 772 au total, qui jusqu'à aujourd'hui attendent avoir le complément salarial. C'est-à-dire qu'ils sont des promotions de 2012 jusqu'à 2017, qu'on appelle aujourd'hui les oubliés. Jusqu'à présent, ils n'ont rien, ils n'ont pas encore une solution viable.
Pour calmer la colère des enseignants grévistes, le président de la République a formulé certaines directives en mars dernier, notamment sur la gestion du plan de carrière des enseignants. Joseph Lé est ministre de la fonction publique.
Je puis affirmer qu'à ce jour, les directives présidentielles adressées au MINFOPRA, j'ai dit qu'il y en avait 5 sur 8, ces directives ont toutes été mises en œuvre ou sont en cours d'implémentation.
Malgré les assurances du gouvernement, la paume de discorde demeure entre l'État et les enseignants grévistes. Ces derniers exigent l'apurement de leurs dettes sur la solde estimée à 181 milliards de francs CFA. Réaction de Laurent Serge Tundungwa, ministre de l'Éducation de base.
Certains compatriotes, profitant de tous ces désordres qui s'étaient établis pendant un certain temps, veulent lever les enchères.
Mais pour l'enseignant Derrick Ndjomo,
pour un gouvernement qui prend celui de résoudre la dette renvoyée à 2023, ça sera encore reparti dans le même problème.
À signaler que certains enseignants, comme dans celui-ci, ont dispensé normalement les cours en ce jour de rentrée scolaire. Emmanuel Jumtap pour VOA Afrique, Yaoundé.
Les habitants de la capitale du Mississippi, l'un des États américains les plus pauvres, n'ont toujours pas d'eau potable. Après des inondations majeures à Jackson, la principale usine de traitement des eaux de la ville est tombée en panne. Certains estiment que le problème est profondément ancré dans la ville à majorité noire qui, historiquement, a enduré le racisme et qui fait maintenant face à la crise de l'eau. Un reportage d'Arash Arabassadi avec le récit d'Abdurrahman Dia.
Des membres de la garde nationale distribuent de l'eau potable dont les habitants de Jackson dans le Mississippi ont tant besoin. Récemment, de fortes pluies et des inondations ont plongé une bonne partie de cet état sous les eaux. Le système d'approvisionnement en eau de la ville est partiellement tombé en panne et les plus de 160 000 personnes vivant à Jackson, pour la plupart des Africains américains, ont dû prendre les choses en main en faisant bouillir l'eau qu'elles peuvent obtenir de leurs tuyaux. La semaine dernière, le gouverneur du Mississippi a déclaré l'état d'urgence alors que les habitants faisaient la queue pour obtenir de l'eau potable. Le gouverneur du Mississippi, Ted Reeve, lors d'une récente conférence de presse.
Je tiens à remercier personnellement nos membres de la garde nationale qui sont sur le terrain pour doter ces sites et rendre cette opération possible. Leur service est vraiment essentiel au succès de cet effort.
Le gouverneur Reeves a fait savoir que près de 3 millions de bouteilles d'eau avaient été distribuées à Jackson au moment de sa conférence de presse. Depuis le mois de juillet, il était déjà conseillé aux habitants de la ville de bouillir l'eau avant toute consommation. La détérioration des infrastructures hydrauliques et les menaces croissantes sur leur stabilité sont mises en cause. Chokwi Antar Lumumba est le maire de la ville de Jackson.
Nous constatons non seulement l'âge et l'usure de notre système, mais nous constatons également les effets du changement climatique. Nous avons des hivers plus froids, des étés plus chauds et plus de précipitations chaque année. Tout cela pèse lourdement sur nos infrastructures hydrauliques.
Le gouverneur et le maire ont visité la station d'épuration la semaine dernière, accompagnés de l'administratrice de l'Agence fédérale de gestion des urgences, UFIMA. Diane Criswell.
Là où nous nous concentrons en ce moment pour ce qui est de la FEMA, c'est de pouvoir nous assurer que nous pouvons fournir et soutenir l'agence de gestion des urgences du Mississippi en apportant de l'eau potable, de l'eau en bouteille et en soutenant leurs opérations. Mais le plus important encore, c'est de faire appel à nos partenaires fédéraux qui peuvent vraiment comprendre ce qu'il faudra pour amener cette usine à sa pleine capacité opérationnelle.
Alors que les résidents qui ont les moyens de s'approvisionner en eau de source continuent de charger leurs voitures, les responsables locaux affirment que l'usine de traitement de l'eau en difficulté a besoin d'une solution plus permanente, rapide et socialement équitable.
C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à VOA Afrique. Et un grand merci à l'équipe de production, Lionel Lunamilagahima, Joselle Morissin et Georges Léonard Sagno, également pour la mise en onde. Merci à toute l'équipe de rédaction, à la présentation Eric.